France Inter.
Bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, la hausse des prix de l'immobilier qui se confirme.
La baisse, moins 3% sur un an au premier trimestre 2024, mais ce n'est pas encore suffisant pour relancer les ventes, notamment parce qu'obtenir un crédit reste difficile. Voilà ce que dit une étude du groupe immobilier Century 21 que l'on vous détaille dès le début de ce journal.
Et les autres titres, Kevin.
Ça souffle déjà dans le Finistère. Gros coup de vent annoncé ce soir et demain matin sur tout l'ouest de la France. La prudence de Donald Trump sur l'avortement, le candidat républicain à la présidentielle veut, dit-il, laisser les États légiférer. Pas d'écran dans les crèches, voilà ce que veulent réaffirmer deux députés LR qui viennent de déposer une proposition de loi.
Et on en parle avec l'une de ces deux députées, Annie Genevard, députée du Doubs, elle est l'invitée de ce journal.
Et puis les flammes brûlent pour Aya Nakamura, la chanteuse en tête des nominations de la deuxième édition de ses récompenses du rap.
Au sommaire du 18-20 ce soir, il y a Israël et ses six mois de conflit, il y a l'Iran, le risque d'embrasement régional et Agnès Levallois. Pour en parler avec nous, le reportage nous emmène en Ukraine où les femmes des grands blessés sont aussi prises en charge. En tout cas, parfois, Kevin, vous nous direz pourquoi la Cour suprême du Brésil veut la peau d'Elon Musk. Dans Le Monde à 18h50, c'est Antoine Malo qui nous met au milieu de la relation Chine-États-Unis. Et puis Cyril Sauvageau dans la BO du Monde vous nous montrera que métal à l'appui, que Viktor Orban ne devrait pas se mêler de musique. Au téléphone sonne, en deuxième heure, on va parler transfuge de classe ce soir avec Lailia Véron qui co-signe un livre sur le sujet Trahir et venger. Qu'est-ce qu'on met dans cette définition transfuge de classe? Est-ce que vous imitez, est-ce que vous vous définissez comme transfuge de classe et comment est-ce qu'on en met finalement à toutes les sauces? À vos questions, à vos téléphones à partir de 19h20.
France Inter.
Les professionnels de l'immobilier prédisaient une baisse des prix, nous y sommes.
Parce que 2023 a été catastrophique pour les ventes, moins 22% pour les logements anciens l'an dernier par rapport à l'année précédente. L'inflation, des taux d'intérêt hauts, des conditions d'accès au crédit qui se durcissent. Nombreux sont ceux à avoir sinon abandonné, du moins repoussé leur projet d'acheter une maison ou un appartement. Mais le marché commence un tout petit peu à se détendre. C'est en tout cas ce que dit Century 21. Le groupe immobilier publie ce soir ses prix moyens au mètre carré pour le premier trimestre 2024. Moins 3% en moyenne dans toute la France. Bonsoir Agnès Soubiran.
Bonsoir.
Mais il y a des régions, Agnès, où cette baisse est bien plus marquée.
Oui, je vous propose, Kevin, une carte de France par région et on commence par l'Ouest, Pays de la Loire, où les prix ont baissé de 12% au premier trimestre de cette année par rapport au premier trimestre 2023. Ce qui s'explique par un effet de rééquilibrage, en fait. C'est une région vers laquelle se sont rués les Français après les confinements, faisant artificiellement grimper les prix. On est donc aujourd'hui dans un début de retour à la normale. Une explication valable aussi pour la Normandie, qui voit ses prix baisser de 5,5%. Baisse également en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Centre-Val de Loire, dans le Grand Est, dans une moindre mesure en Bretagne, dans les Hauts-de-France et en Occitanie. Une baisse sensible à noter à Paris, où le mètre carré se négocie autour de 9000 euros. Et trois régions restent orientées à la hausse, plus 1,2% en Bourgogne-Franche-Comté, plus 1,6 en Nouvelle-Aquitaine et plus 4,4 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec des situations très contrastées. À Nice, la demande reste très élevée, mais le nombre de biens à vendre restreint, d'où une activité en baisse de près de 15%. À Marseille, au contraire, des prix en baisse de 9% et une activité en hausse de 7,5%.
Mais ce n'est pas pour autant suffisant pour l'instant, Agnès, à relancer le marché parce que les taux d'intérêt restent très élevés.
Non, et c'est intéressant de consulter la courbe des prix au mètre carré à Paris, croisée avec celle des taux moyens de crédit. En 2020, le prix au mètre carré est au plus haut, 10 599 euros, parce que les taux sont au plus bas, 1,25%. Aujourd'hui, un prêt sur 20 ans se négocie un peu en dessous de 4%. Ce n'est pas encore suffisant pour relancer le marché. On attend d'ailleurs de nouvelles annonces de la BCE jeudi pour les mois à venir. Dernier indicateur, Kevin, les délais de vente qui restent très longs, 103 jours en moyenne pour une maison, 100 jours pour un appartement et à Paris, délai moyen de 98 jours, un délai record pour la capitale.
Dossier signé Agnès Soubiran, service économie et sociale de France Inter.
Pierrick commence à balayer les côtes de l'ouest de la France.
Et comme souvent, c'est le Finistère qui subit la tempête en premier. Le département est en vigilance orange, vague, submersion et au vent jusqu'à 130 km/h annoncé par Météo France ce soir. Bonsoir William Delesseux.
Bonsoir Kevin.
Sur place, on se prépare et on s'inquiète aussi un peu par endroits.
Oui, ces vents violents sont déjà arrivés sur une partie des côtes du Finistère. Ce qui inquiète, ce sont les vagues de 7 à 8 mètres attendues. Les coefficients de marée sont au-delà de 100. À Pinmar, au sud de Quimper, la mer Gwenola, le Troadec, a pris un arrêté pour fermer des sentiers côtiers, des routes littorales.
vous savez, il y a beaucoup de monde à les vacances en ce moment. Et c'est comme si c'était pas possible de comprendre que la mer, elle est belle, c'est un spectacle formidable, mais elle est dangereuse. Quelquefois, on se rend pas compte que derrière la beauté, le spectacle, eh bien, une vague suffit. Prudence et vigilance.
La tempête va se décaler cette nuit vers le nord-est du littoral et sur la Manche. Des habitations sont menacées par les vagues dans la commune de Christophe Gilles, le maire de Saint-Germain-sur-Aix.
Bon, on a mis des pieux pour essayer d'amortir la violence de la mer. On va sûrement mettre de la rubalise en haut des cales pour que les gens n'aillent pas trop près des vagues qui peuvent déferler. Mais malheureusement, on est juste spectateurs. On n'a pas tellement de moyens d'empêcher la mer de taper où elle veut taper. Quoi.
Et ici comme ailleurs, les dunes, les digues, les plages sont déjà fragilisées par les épisodes de l'hiver de l'automne dernier, comme la tempête Kiran, d'où les craintes des élus comme des habitants.
Et par ailleurs, 5 départements sont en vigilance orange pour risque de crue. Météo complète après ce journal avec Élodie Calac.
Nous sommes au moment opportun.
Déclaration ce soir du ministre de la Défense israélien à propos d'une éventuelle trêve dans la guerre à Gaza qui a déjà fait plus de 33 000 morts d'après le ministère de la Santé du Hamas. Devant des recrues aujourd'hui, Yoav Gallant a estimé que son armée se trouve dans une position de force. Le tout au lendemain du retrait des soldats israéliens de Ran Younes et de l'annonce de la préparation d'une offensive à Rafah où s'entassent 1,5 million de réfugiés palestiniens. Des négociations pour une trêve sont en cours sous l'égide de l'Égypte. L'actualité à l'étranger ce soir, c'est aussi l'avortement toujours au cœur de la campagne électorale américaine. Trump s'est empêtré dans sa position sur le sujet, assure ce soir le président sortant Joe Biden. Réaction après que Donald Trump a assuré aujourd'hui qu'il comptait laisser les États américains légiférer sur l'avortement, semblant écarter donc une interdiction au niveau fédéral et tenter ainsi de rassurer les électeurs républicains plus modérés. France Inter à Washington, Sébastien Paour.
Trump ne dit pas dans cette vidéo à partir de combien de semaines de grossesse l'avortement devrait être interdit. C'est à chaque État de décider selon lui. Mon point de vue, c'est que maintenant que nous avons l'avortement là où tout le monde le voulait d'un point de vue juridique, ce sont les États qui décideront par un vote ou par une loi, ou peut-être les deux, et ce qu'ils décideront devra faire loi, la loi de l'État. Il se vante d'être celui qui a permis la fin de l'IVG au niveau national grâce à ses nominations à la Cour suprême. Je suis probablement la personne responsable de la fin d'une chose que tous les juristes des deux camps voulaient et en fait exigeaient, la fin de l'arrêt Roe contre Wade. Et il se prononce pour 3 exceptions. Je suis très favorable aux exceptions en cas de viol, d'inceste et quand la vie de la mère est en jeu. Trump a souvent varié sur l'avortement et il sait qu'il peut lui coûter sa réélection en novembre. Les républicains ont perdu tous les scrutins où il était question d'IVG depuis la décision de la Cour suprême il y a presque 2 ans, même dans les États conservateurs comme le Kansas. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Washington, où vous ne serez pas malheureusement le mieux placé, Sébastien, pour apprécier le spectacle de l'éclipse totale de soleil qui traverse ce soir l'Amérique du Nord. Elle passe un peu plus à l'ouest, de Mexico à Montréal. Des millions de personnes se préparent au spectacle. Nous serons d'ailleurs au Texas dans le journal de 19h.
17 militants écologistes interpellés simultanément aujourd'hui.
Par les policiers de la sous-direction antiterroriste. Ils sont soupçonnés de faire partie de la centaine de personnes qui s'est introduite dans les locaux de Lafarge à Val-de-Reuil. Dans l'heure, c'était le 10 décembre. Ils répondaient alors à l'appel à la mobilisation contre les cimentiers lancés par le collectif Les Sous Soulèvement de la Terre. Lucie Amadieu, ces 17 personnes sont ce soir en garde à vue.
Il s'agit de 11 hommes et 6 femmes, presque tous interpellés en Normandie par les policiers de la sous-direction antiterroriste. Ils sont tous majeurs et soupçonnés d'avoir pris part aux nombreuses dégradations survenues en fin d'année dernière à Val-de-Reuil. Le 10 décembre dernier, donc, près d'une centaine de personnes s'introduisent dans les locaux du cimentier Lafarge. Ces militants sont alors vêtus de combinaisons blanches, les visages dissimulés par des masques et portent des gants. Ils se livrent alors à diverses dégradations, détaille le procureur de la République d'Évreux. Des sacs de ciment sont éventrés, des vitres et du matériel informatique brisés, du béton est même coulé dans une arrivée d'eau. L'agent de sécurité du site, lui, a été bloqué dans son local après que des militants ont apposé de la mousse expansive autour de sa porte, l'empêchant ainsi de sortir. Une action écologiste, puisque ces militants répondaient à une journée d'action nationale contre Lafarge et le monde du béton. Des tags ont été retrouvés sur les murs de l'entreprise. entreprises comme le béton tue ou la farge terroriste.
Les explications de Lucie Amadieu, France Bleu, Normandie, Rouen. Et ce soir, les soulèvements de la terre appellent à des rassemblements de soutien à ces militants demain à 18h devant le palais de justice à Rouen et à Levallois-Perret où se trouvent les locaux de la sous-direction antiterroriste. Dans les Deux-Sèvres, le corps retrouvé dans une rivière à Montcoutant en fin de semaine dernière, eh bien celui d'Erwan. Confirmation du parquet de Niort ce soir, cet étudiant de 18 ans était porté disparu depuis près de 2 mois après une sortie en boîte de nuit. L'hypothèse principale est un décès par noyade, indique le parquet.
Aucune exposition aux écrans avant 3 ans.
C'est ce que souhaitent deux députés, les Républicains, qui ont déposé aujourd'hui une proposition de loi visant à interdire l'accès aux écrans dans les crèches ou chez les assistantes maternelles quand les enfants, en tout cas, sont à proximité. C'est un enjeu de santé publique, estiment les deux auteurs du texte.
Bonsoir Annie Genevard.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes députée du Doubs, députée LR, et vous êtes des deux députés qui proposent ce projet de loi. Pas d'écran avant 3 ans, dites-vous. Pas à la crèche, ni chez les assistantes maternelles. Parce qu'on est d'accord, en crèche, de toute façon, et pour les gens qui nous écoutent, qui ont des enfants tout petits, des écrans, normalement, il n'y en a jamais.
Il n'y en a jamais, c'est beaucoup dire. Il est clair que les enfants sont rarement devant des téléviseurs ou des tablettes ou des portables. Mais vous savez, d'abord, deux observations. Dans les crèches, il y a des adultes qui ont accès à leurs propres écrans, généralement les portables. Il n'est pas question de leur interdire, il peut y avoir des raisons de sécurité à cela. Mais notre proposition de loi a deux objets. Un, pas d'écran avant 3 ans pour les enfants, mais aussi une restriction d'usage aux seules nécessités du service pour les adultes en présence des enfants. Donc, ça concerne tous les professionnels de la petite enfance. Et puis, j'ajoute qu'il y a de plus en plus de jouets numériques. Et il n'est pas interdit de penser qu'un jour, peut-être, il y aura dans les crèches des jouets numériques. Le marché est prêt à inonder les foyers et les structures d'accueil de produits jugés parfois abusivement de pédagogie.
On entend Annie Genevard, vous parlez aussi effectivement des assistantes maternelles et l'idée là aussi, c'est simplement, c'est même de le mettre dans l'agrément, c'est-à-dire on laisse le portable sur le côté pendant que les enfants sont là dans la maison.
Alors, deux choses. D'abord, vous savez, pour obtenir un agrément afin de garder des enfants, il faut pouvoir satisfaire des conditions en matière de formation, de superficie de logement, de nature de l'équipement, de programme pédagogique. Il y a un entretien, il y a des évaluations. Donc, nous proposons d'intégrer dans les critères, effectivement, une disposition qui concerne les écrans. C'est-à-dire que on ne met pas l'enfant avant 3 ans devant des écrans, quel qu'il soit, téléviseur ou autre. Et puis l'adulte lui-même se restreint dans l'usage qu'il fait des écrans en présence des enfants.
Après, ce qui va être un peu compliqué, c'est que quand on a une assistante maternelle, et j'entends ce que vous dites, on peut avoir des enfants qui ont 1 an et demi, 2 ans, on peut en avoir d'autres qui ont 3 ou 4 ans, et qui là, pour le coup, sont en train de regarder la patte patrouille. Donc parfois, ça peut être très compliqué à gérer, cette affaire.
C'est vrai, mais les désordres engendré par un usage abusif des écrans sont tellement importants, tellement graves en matière de santé, qu'il s'agisse de l'acquisition du langage, de la motricité, de l'interaction, des relations avec autrui, de l'environnement, de la perception de l'environnement. Un écran, c'est 2 dimensions, l'environnement, c'est 3 dimensions. L'importance de la médiation de l'adulte, tout ça est tellement important dans la construction de l'enfant entre 0 et 3 ans que ça vaut bien quelques ajustements d'organisation.
Alors pour effectivement la 3D, vous avez raison, vive les cubes, après tout c'est pareil. Mais tout de même, quand même, Annie Genevard, moi je me suis arrêtée sur un chiffre, je comprends qu'il vous effraie, les enfants de 2 ans c'est 56 minutes par jour apparemment, c'est même 3 ans d'écran, 1h20 d'écran pardon, à 3 ans. Oui. Mais dans ces cas-là, moi j'ai le sentiment qu'on parle pas de la crèche ni de l'assistante maternelle, on parle d'après, on parle des enfants et du comportement des parents. Et là, vous n'allez pas rentrer dans les foyers, ça deviendra compliqué.
Oui, vous avez raison. Notre proposition de loi, elle ne peut pas être intrusive dans les foyers. Il y a la responsabilité des parents, elle est immense, comme pour tout d'ailleurs. pas seulement pour les écrans. Et là, si vous voulez, je pense qu'il y a une action résolue de toute la société. Mmh. C'est une première brique, celle que nous posons à travers cette proposition de loi. Mais peut-être que l'interdiction de l'écran auprès des professionnels qui ont en charge la garde des enfants peut amener à rétroagir sur les parents, à amener les parents à se poser des questions sur leur propre comportement.
Et on a tous la
vision de parents qui
regardent leur téléphone au lieu d'écouter ce que disent l'enfant à côté. On l'a bien cette image, Annie Genevard, pardon de vous couper. Mais merci, vous êtes la députée du Doubs et l'une des deux députées qui propose ce projet de loi.
L'actualité ce soir, c'est aussi la mort de Nicolas Holvex et l'AS Nancy Lorraine dont il était le président qui l'annonce. Il s'est battu jusqu'au bout contre la maladie, écrit le club de foot de National dans un communiqué. Nicolas Holvex a été président du Stade Rennais en Ligue 1 jusqu'en mai 2022. Il s'était alors mis en retrait après avoir révélé souffrir d'un cancer. Il avait 52 ans.
On connaissait les étoiles, voici maintenant les clés Michelin.
Oui, le célèbre guide est visiblement insatiable puisqu'après avoir bâti sa réputation de critique gastronomique dans le monde entier, il s'occupe désormais de distinguer aussi les hôtels. Ils sont un peu moins de 200 en France à avoir reçu aujourd'hui une, deux ou trois clés Michelin des établissements de luxe et donc très chers pour la plupart. Gwendal Poulenec est directeur international des guides Michelin.
Il y a une grande diversité d'offres dans cette sélection, puisque ça va d'à peu près 130 euros jusqu'à évidemment beaucoup plus pour des adresses toutes très exclusives. Mais il y a à la fois une grande diversité de concepts, il y a beaucoup d'établissements qui sont également dans les régions. Un petit établissement situé à Cannes, chez Laurence, c'est seulement 3 chambres disponibles, mais vraiment un petit joyau. Et vous avez après dans la sélection jusqu'à 3 clés Michelin. Alors des établissements emblématiques comme le Georges V à Paris, Beaumanière au Beau-de-Provence par exemple. Toutes ces adresses ont en commun d'avoir une vraie signature, de proposer une expérience vraiment authentique. Nos inspectrices, inspecteurs prêtent évidemment une attention particulière au service, à la qualité de l'accueil et des prestations. Et si la France brille aujourd'hui par sa gastronomie, elle brille aussi par sa scène hôtelière.
Gwendal Poulenec des guides Michelin, interrogé par Fabien Cazot. Enfin, on ne sait pas encore si elle chantera ou non lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques cet été. Mais ce qui est sûr ce soir, c'est qu'Aya Nakamura domine les nominations des Flammes, équivalent des Victoires de la musique. Mais pour le rap et ses différents courants. Bonsoir Stéphane Capron.
Bonsoir Kevin.
Alors, quelle est l'une des rares femmes en lice, Aya Nakamura? Est nommée dans 6 catégories. Personne ne fait aussi bien.
Et on n'aura jamais autant parlé dans les médias de la chanteuse franco-malienne qui est donc, vous le rappeliez, au cœur de cette polémique suite aux révélations sur son hypothétique présence à la cérémonie des JO de Paris le 26 juillet. C'est en tout cas une aubaine pour les organisateurs de la cérémonie des Flammes, une soirée conçue pour dénoncer le manque de représentation des musiques urbaines aux Victoires de la musique. Et pour cette deuxième édition, Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus écoutée au monde, est donc nommée dans 6 catégories, dont celle du single de l'année pour Baby.
Toi là, toi tu veux tout. Sans rien dire pour moi, c'est chelou. Je sais pas trop ce que t'attends de moi. Hey!
Et contrairement aux Victoires de la musique, Kevin, la liste des nominations des Flammes repose sur le vote du public additionné à un jury professionnel. Cette année, pour la deuxième édition, plus de 280 000 personnes ont voté, des votes très ouverts, raison pour laquelle on trouve dans les nominations Fritz Corleone, dont beaucoup de concerts ont été annulés par la justice. L'artiste est soutenu par le public, mais lâché par son label qui a dénoncé ses propos racistes inacceptables.
Stéphane Capron, les Flammes, deuxième édition, ce sera le 25 avril. Rappelons qu'Aya Nakamura a déjà été sacrée cette année artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique. Et puisqu'on évoquait les JO, cette dernière minute, on apprend que les anneaux olympiques seront installés sur la Tour Eiffel pour les Jeux.
25 avril, je vous signale que c'est mon anniversaire. Je vous le dis juste, ça m'intéresse pas.
Je note dans mon petit agenda.
Allez, Kevin, vous reviendrez tout à l'heure avec l'actualité internationale passée sous les radars. On jette un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Élodie Galac, bonsoir. Beaucoup de vent ce soir et cette nuit.
Oui, bonsoir à tous. En effet, le vent se renforce sur le nord-ouest jusqu'à 90 à 110 km à l'heure sur le Finistère, qui est placé en vigilance orange, et même 120 à 130 sur le littoral. Cette nuit, le vent sera fort du côté de la Manche. Il atteindra encore 90 km à l'heure demain matin. Attention, vigilance orange, vague submersion pendant les pleines mers entre ce soir et demain du Finistère jusqu'au Pas-de-Calais. Prudence aussi près des cours d'eau. Eure, Seine-Maritime, Charente-Maritime, Gironde et Pyrénées-Atlantiques sont en vigilance orange pour les crues.
Et puis des pluies traversent le pays aussi. Hein.
Oui, des pluies sur la façade ouest en ce moment et des orages qui éclatent des Pyrénées en remontant vers le nord du pays avec de la grêle possible et du vent. Demain matin, il pleuvra sur la façade est. Ailleurs, ce sera changeant avec du vent, des éclaircies, des averses. Alors surtout vers le sud-ouest, elles pourront s'accompagner d'orages dans l'après-midi. Les températures, elles baisseront nettement, hein, souvent 12 à 15 degrés attendus demain après-midi. Encore 17 à 18 en Méditerranée, 20 à 22 en Corse. Mais cet après-midi, il a fait plus de 22 degrés à Paris et presque 27 à Mulhouse et à Marseille.
Élodie Calac de Météo France.